Histoire de l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, après vous avoir parlé de la matérialité et du corps, et donc après avoir exploré les profondeurs de l'incarnation, je voudrais continuer cette exploration avec une réflexion sur l'énergie qui caractérise l'incarnation. Car c'est ça qui ressort de celle-ci, l'énergie. Et pas simplement la matérialité ou le corps. Mais ce qu'il y a derrière le corps et la matérialité, et nous allons y revenir, l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? L'énergie nous fait penser à un courant électrique. L'énergie est effectivement un courant électrique. Mais ce courant est un courant de vie. Et derrière la vie, un courant d'action, d'activité. C'est Aristote qui m'a fait comprendre ce qu'est l'énergie. Lorsque, parlant de Dieu, il parle de l'être, il parle de l'intelligence, il parle de l'action, il parle de l'émotion, il parle du désir. L'action et l'intelligence vont ensemble. Pourquoi est-ce que l'action et l'intelligence vont ensemble ? Parce qu'il n'y a pas plus intelligent que d'être actif, et il n'y a pas plus actif que d'être intelligent. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence et l'action se rencontrent ? C'est le fait de faire agir. Qu'est-ce qui est intelligent ? Qu'est-ce qui nous rend intelligent ? Ce qui nous rend intelligent, c'est d'être vivant. Qu'est-ce que c'est que d'être vivant ? C'est de vivre les choses. Qu'est-ce que c'est que vivre les choses ? C'est rendre les choses vivantes, agissantes, en étant soi-même vivant et agissant. Si bien que nous comprenons ici ce que veut dire l'énergie. L'énergie signifie le développement de l'action à travers le pouvoir agissant qui va de nous à la vie et de la vie à nous. Nous sommes agissants. En faisant agir ce que nous vivons, la vie devient agissante. La vie devient agissante, donc nous devenons agissants. Et finalement, tout se remplit d'énergie agissante et par là même d'énergie. Donc l'énergie est liée au pouvoir d'action. Et ce pouvoir d'action, nous pouvons le voir à trois niveaux. Nous pouvons le voir au niveau des énergies naturelles, nous pouvons le voir au niveau des énergies humaines et nous pouvons le voir au niveau des énergies divines. Les énergies naturelles résident dans le pouvoir d'action qui est propre aux choses et à la matérialité. Et ce pouvoir d'action, nous le sentons particulièrement dans les minéraux et les végétaux. La preuve, nous nous servons pour nous soigner des végétaux et des animaux en essayant de convertir leur énergie en énergie intérieure propre, bénéfique pour notre corps. Expérience positive de l'énergie et des énergies naturelles. Problème crucial aujourd'hui, nous avons besoin des énergies naturelles pour notre énergie économique et nous essayons d'utiliser ces énergies pour notre économie. Les énergies humaines sont doubles. Elle relève de la volonté ainsi que du bonheur. caractéristique de la volonté, c'est d'être énergique. Qu'est-ce que c'est que d'être énergique? C'est de vouloir. Et qu'est-ce que c'est que vouloir? Vouloir consiste à vouloir le fait de vouloir. Est-ce que je veux vouloir? Si je veux vouloir, je suis plein d'énergie. L'énergie, c'est aussi le bonheur, le fait d'être heureux. J'ai de l'énergie, cela veut dire que je sens la vie vivre en moi, je me sens vivant, je me sens en accord avec la vie et en accord avec la vie. J'ai cette énergie heureuse qui consiste à avoir plein d'énergie pour pouvoir agir. Beauté de l'énergie humaine. C'est beau de voir les êtres humains agir et le pouvoir d'action de l'humanité autour de nous. Il y a toujours quelque chose d'émouvant, voire de bouleversant, dans le spectacle magnifique de cette énergie de vie à l'œuvre. Et puis, il y a l'énergie divine. En Occident, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de matérialiser Dieu et par là même de basculer dans le panthéisme en confondant Dieu avec les choses matérielles. Et on a bien évidemment raison d'avoir de la prévention à l'égard de cette confusion. Il n'en reste pas moins que l'énergie divine a du sens. Pourquoi ? Parce que s'il existe un pouvoir agissant des choses, s'il existe un pouvoir agissant des êtres, il existe un pouvoir agissant de Dieu à l'intérieur de l'existence. En Occident, on parlera davantage de la grâce. En Orient, on parlera de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que cette énergie divine ? Saint Grégoire Palamas, un des très grands saints de l'Église orthodoxe au XIVe siècle, l'exprime très bien dans sa triade pour la défense des saints hésychastes lorsqu'il met en relation l'expérience des hésychastes, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'hésychia, la paix, les moines, la prière, ceux qui pratiquent la paix dans la prière, et d'autre part, les énergies. Lorsque l'être humain se remplit de Dieu en se laissant habiter par Dieu, il laisse Dieu agir en lui et Dieu agissant en lui réveille à l'intérieur du cosmos mais aussi de l'humanité les énergies qui y sont contenues. Il permet à l'énergie de la vie divine de passer sous toutes ses formes, les formes les plus matérielles, les plus humaines, avant d'aller vers les formes les plus spirituelles. Saint Grégoire Palamas a parlé des énergies pour expliquer que ce que font les moines est très concret et ça n'est pas du tout un repli sur soi. Un nombrilisme spirituel, on traitait péjorativement le monachisme, parfois à l'époque, en le traitant d'omphalopsychisme, c'est-à-dire de confusion de Dieu avec une expérience psychique centrée autour du nombril. Certes, les moines sont rassemblés, unifiés à l'intérieur d'eux-mêmes afin de devenir totale attention à Dieu. Mais cette expérience de totale attention à Dieu se révèle bénéfique, merveilleuse pour l'ensemble de l'humanité. Lorsqu'elle transforme les cœurs, elle permet à l'action divine de passer à travers l'action humaine et de venir réveiller le pouvoir agissant de tout ce qui se trouve dans la nature, mais aussi de tout ce qui se trouve dans l'humanité, de tout ce qui se trouve dans les corps et de tout ce qui se trouve dans les âmes. Il faut réveiller les énergies du corps et les énergies de l'âme pour pouvoir vivre corps et âme, et en vivant ainsi corps et âme de toute sa chair, Allez vers l'esprit. L'esprit n'est pas la chair, mais la chair est le tremplin qui permet d'aller vers l'esprit. Expérience donc de l'énergie. Rentrer en soi-même pour devenir fort, non pas au sens de courageux, mais fort au sens de rempli de la plénitude des énergies cachées, mystérieuses, divines, célestes, qui sont à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'à se manifester pour le plus grand bien de tous, pour la plus grande gloire de Dieu. C'était par les moines du monastère de Cheftogne un extrait de la Divine Liturgie. Chers amis, pour la troisième fois, j'ai la joie d'accueillir Sandrine Canéry, qui nous passionne quand elle nous parle de sa rencontre avec le judaïsme et quand elle va parler plus précisément dans les textes de la relation qu'elle a faite avec le judaïsme, n'est-ce pas,
oui,
chère Sandrine?
Oui, oui, bonjour Bertrand, merci. Oui, effectivement, je m'emballe un peu parce que c'est tellement passionnant. Et là, quelque chose que je n'ai pas précisé la dernière fois, c'est que ces deux traditions ne parlent pas la même langue, puisque les Grecs parlent grec et que les Juifs parlent hébreu. Donc, comment ces langues se rencontrent? Parce qu'il y a, on sait bien qu'une langue, c'est un monde culturel en soi. Et donc, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent bien les deux langues, on sait qu'il y a plein de passerelles. Il y a plein de passerelles. Mais, quand même, ça reste deux langues différentes. Et donc, mon travail, ça a été, et sachant aussi que l'Église orthodoxe, dans sa tradition byzantine, elle est grecque. Elle parle grec au départ, même si elle est devenue en Presse, Lavonne, Georgienne, etc. Mais au départ, elle est grecque. Et donc, et que sa Bible de référence, c'est la Septante. Et la Septante, qu'est-ce que c'est? C'est une Bible grecque. Et c'est d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, la Bible de référence des orthodoxes. Donc, comment on fait quand on a, d'ailleurs en français, à part les merveilleux livres de Marguerite Arles, les livres bleus, où on en a au moins plus de 50 pour avoir la Bible complète, comment on fait pour avoir une Bible grecque traduite en français? On n'en a pas une comme ça. Bon. Donc c'est compliqué pour le français. Le français, toutes nos Bibles sont traduites sur le texte hébreu. Toutes nos Bibles françaises. Bon. Donc, comment on fait? Voilà. Et pour bien arriver à faire le lien, il faut bien travailler sur les deux textes, sur les deux traductions, sur les deux manuscrits, on pourrait dire. Bon. Et donc, j'ai pris puisque j'ai parlé de Rebecca la dernière fois, j'ai pris quelques versets de Rebecca au puits, parce que je suis passionnée par ces rencontres d'un homme et d'une femme au puits, on pourrait en parler des heures, et j'ai regardé le texte. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire, en tout cas dans l'Église orthodoxe, « Ah, mais tu comprends, la Septante, elle est bien mieux que le texte hébreu, et puis de toute façon, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes et tout. » Et moi, je commence à regarder de près, parce que moi, on me dit des choses, mais bon, moi, je regarde. Et puis, je regarde le grec, je regarde l'hébreu, au moins pour ces dix versets-là, et je vois que j'ai un texte identique. J'ai un texte identique. Et quand je traduis et le grec d'un côté et l'hébreu de l'autre, sans regarder ce que dit l'un et l'autre, ben je retrouve le même texte. Alors, évidemment, il y a des petites nuances. il y a des petites nuances que je signale dans mon Rebecca, mais ce qui est incroyable, c'est que je trouve les mêmes fautes de grammaire. Il y a une faute de grammaire en hébreu, le grec répète la même faute de grammaire. Non mais c'est incroyable. Donc on voit bien qu'on est sur un texte, on dirait copier-coller, hein, dans le langage moderne. Bon. Alors, pour donner juste un exemple, qu'est-ce qui se passe quand Rebecca arrive au puits et qu'il y a le serviteur d'Abraham qui s'appelle Eliezer, et entre parenthèses, encore voilà une chose incroyable, c'est que ce serviteur d'Abraham, dans ce chapitre 24 du livre de la Genèse, il n'est jamais nommé Eliezer. Il est toujours nommé serviteur d'Abraham. Comment on sait qu'il s'appelle Eliezer? Entre parenthèses, franchement, comment on sait? Bon. Eh bien, la tradition juive l'appelle Eliezer et la tradition des pères de l'Église l'appelle aussi Eliezer. Donc déjà, comment on le sait? Ben, on a bien une réception. Ne serait-ce que du nom d'un serviteur dont le chapitre 24 ne parle que en disant le serviteur d'Abraham. Voilà. Donc déjà rien que ça déjà. Bon, on pourrait. Bon. Et puis ce serviteur, donc il arrive au puits et il demande, il fait une prière et il demande à Dieu que celle qui va devenir la femme de son maître Isaac, eh bien elle ait un certain nombre de qualités, non seulement qu'elle donne à boire au serviteur qui a soif, mais aussi à ses chameaux. Et puis Rebecca arrive et voilà, et il la voit, il a à peine fini sa prière, il voit cette jeune fille arriver, et le texte dit, la jeune fille était très belle, vierge, aucun homme ne l'avait connue. Cette phrase, elle est identique, mais absolument identique, un copier-coller en grec et en hébreu. Alors, et ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est là où c'est le génie de ce qui se concorde entre les deux traditions, qu'est-ce que disent les rabbins? Ils disent, mais attendez, elle est vierge, aucun homme ne l'a connue, mais vous croyez qu'on perd son encre à dire deux fois la même chose? Donc forcément, c'est pas deux fois la même chose. Vierge, ça veut dire une chose, aucun homme n'avait connu, ça veut dire autre chose. Et donc les rabbins, expliquent, vierge, c'est de cœur, et aucun homme ne l'avait connue, c'est physiquement. Et ils expliquent, alors les rabbins, ils sont très osés, ils disent, ils ne l'ont pas connu par l'hymen. Voilà. Mais non seulement ils ne l'ont pas connu par l'hymen, mais ils ne l'ont pas connu du tout, parce qu'elle était vraiment pure et vierge. Alors qu'il y a des filles qui, soi-disant, ne sont pas connues par l'hymen, mais qui fricotent autrement. Quoi. Voilà. Et donc les rabbins, ils sont un peu osés comme ça, mais c'est intéressant, c'est-à-dire, c'est une vraie pureté, une fausse, corporelle, je veux dire. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que disent les pères de l'Église? Ben, ils disent, mais c'est bizarre, on dit vierge, on dit, elle n'a pas connu d'homme, et on répète deux fois la même chose. Donc, la même question est posée sur le texte. Donc ça, c'est un fondement que je trouve fondamental et que je enseigne à tous mes étudiants. Quand vous avez un texte, posez-lui des questions, il va vous répondre, si vous cherchez vraiment. Quoi. Et donc la question... Et alors, je suis sûre que... La plupart de nos auditeurs ou la plupart des croyants qui lisent ce texte, bon, ils passent ça, bon, elle est vierge, pas connue, bon. Mais on ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle une redondance. Et les pères vont dire la même chose. Ils vont dire, eh ben, elle est vierge, mais en plus d'être vierge, elle a une pureté. Elle a une pureté qui est au-delà de toutes les... Voilà. Et elle n'a pas été aguicheuse, elle n'a pas ceci. Enfin, les pères vont expliquer de la même manière.
Peut-être qu'elle est plus que vierge.
Voilà. Elle est plus que vierge, puisque voilà, évidemment, elle va. Alors après, on peut parler d'une typologie de celle qu'on appellera nous dans l'orthodoxie la mère de Dieu. Et d'ailleurs, c'est une certaine typologie, parce qu'il y a cette pureté qui est au-delà de la pureté naturelle. Et c'est la raison pour laquelle elle correspond bien comme épouse pour Isaac, parce que elle est dans l'esprit d'Abraham. Donc tous les pères le disent et les rabbins le disent. Elle est dans l'esprit d'Abraham, qui est un esprit de générosité. Parce qu'entre parenthèses, elle va au puits, elle puise, et en fait, si on regarde, parce qu'il y avait 10 chameaux à donner à boire, puisqu'elle a dit « je vais abreuver tes chameaux », elle en puise 500 litres. Elle puise 500 litres pour les chameaux. Donc ça veut dire, il y a une générosité. C'est au-delà, voilà. Le cœur est ouvert, le cœur est au-delà de la générosité habituelle, quoi. Bon, voilà. Et donc, là, je pense que c'est quelque chose qui m'avait énormément frappé. Alors, ensuite, il y a l'idée que, qu'est-ce que c'est ce puits? Qu'est-ce que c'est ce puits? Et alors, les rabbins vont dire, le puits, c'est l'eau qui purifie, mais c'est aussi la Torah, c'est-à-dire la parole divine, Et ils vont même encore plus loin en disant c'est le puits de l'Esprit Saint, parce qu'au puits, on s'abreuve à l'Esprit Saint. Et bien, les pères disent exactement la même chose. L'eau, c'est la parole divine, c'est la source, et c'est aussi l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui coule. Donc, vous vous dites, bah, d'où ils ont... Je veux dire, ça peut pas être une invention de l'Église, quoi. Il y a forcément... Alors, comment ça s'est transmis entre deux langues? Parce qu'on sait bien que les pères grecs, pour, en tout cas pour beaucoup, ne parlaient pas l'hébreu. Alors, on sait bien qu'Origène allait voir les, frapper chez la porte des rabbins pour avoir quelques connaissances, et qu'il en a appris pas mal. Bon. Mais, voilà. Et puis, on continue comme ça à étudier ce texte, et on voit qu'il y a plein de parallèles. Et donc là, ça s'entrecroise. C'est le... Jusqu'au moment où on arrive, je veux dire... Parce qu'à un moment donné, on est quand même chrétien, donc on est quand même différent. On monte, et à un moment donné, on voit, eh bien, le puits, c'est le baptême. Le puits, c'est le baptême. Rebecca, c'est l'Église. Et Eliezer, c'est comme Jean-Baptiste, quoi. Il montre, voilà. Et donc, mais c'est au terme, on arrive au terme. C'est-à-dire que c'est, quand on dit christianisme accompli, ben c'est ça. Donc, il reprend, c'est une espèce de nappe phréatique, il reprend tout l'appareillage, on pourrait dire, de la pensée rabbinique ou de la pensée juive, et il monte, et jusqu'au moment où ça bascule dans ce qui est typiquement chrétien, le baptême, l'Église, le Christ.
Et puis toute l'expérience spirituelle intérieure.
Exactement.
Qui fait qu'on passe vraiment de l'extérieur
voilà,
à l'intérieur.
Voilà, exactement.
Merci, chère Sandrine, d'avoir continué à nous passionner. Et pour finir cette émission, à nouveau, pour notre plus grande joie, les moines du monastère de Cheftoigne dans la divine liturgie.
Я Господь, Шамбога на небе. maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.
This could be a movie. I feel like Elizabeth Taylor. Red lips, dark hair, alone in my trailer. Under my white shirt, heart like stone. Wearing fake designer pearls. I've loved, I've lost, and loved again. But here I am on my own. I feel like Elizabeth Taylor. Do I make you nervous? I feel like Elizabeth Taylor. And not just on the surface. Elizabeth Taylor at the after party in a room full of strangers, just me and my Bacardi, thinking of an old movie and the roles that we play. Sometimes I look back and I wish that you stayed. I've loved, I've lost and loved again, but here I am. Another lesson learned, another lesson learned.